Amis confinés, bonjour. Besoin d'évasion? Alors, en voyage pour le bayou de la Nouvelle-Orléans, où Patrice, auteur de la nouvelle qui suit, vous transporte à la recherche d'un vieux bluesman. Ouais. Allô Arnaud, tu m'entends? C'est Mitch.
Oui, je t'entends, gueule pas comme ça. Quelle heure il est, bon sang?
4 heures et des brouettes.
4 heures, mais t'es branque ou quoi? Tu sais que je couvrais un reportage en boîte de jazz et ça fait pas deux plombes que je suis couché. Je t'ai déjà dit qu'il est hors de question que je pose mon pieu à la rédac, ok?
Calmos, Arnaud, tu ne devineras jamais qui vient de m'appeler.
Non, je sais pas. Le Père Noël? Au mois de décembre, ça doit être pour une commande.
Mais je n'ai encore rien.
Arrête ton délire 5 minutes, tu veux? Et ouvre bien tes esgourdes, Arnaud.
Tiens-toi bien, ils l'ont trouvé.
Ils ont trouvé qui? Accouche vite que je replonge.
J'ai eu Bob Wears du magazine musical Crossroad au téléphone direct de New Orleans qui m'affirme avoir mis la main sur celui que tu recherches.
Non, pince-moi, je rêve, c'est pas vrai.
Bouge pas, j'arrive.
Ils l'ont trouvé enfin. 2 ans de recherche aux confins du delta du Mississippi. Des coups de fil, des fax, des mails et autres gesticulations. Ils ont enfin mis le grappin dessus. Ouf! Le temps de rassembler mon barda, je mets That's Code Love de Mamie Smith sur la platine. Premier enregistrement d'une grande voix de l'histoire du blues, déchirée par l'alcool millésimé 1920. Histoire de me mettre dans le bain. Ensuite, je passe à la rédac avant de filer à l'aéroport.
Salut Mitch, et merci pour le happy up. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu sais de plus?
Il s'appelle Samuel, aurait 83 piges et vivrait entre Baton Rouge et New Orleans, dans un wagon de chemin de fer, quelque chose dans ce goût-là.
Ouais, cool. Et il parle encore?
Tu prends le premier avion sur la Nouvelle-Orléans, ensuite, à toi de jouer, mon grand.
Me voilà devant un coca près du tarmac, paumé, à me poser toutes sortes de questions. Tout est arrivé si vite. J'entends parler ricain tout autour de moi. Je dois sûrement être aux States. Correspondance Cincinnati, New Orleans. 1 heure plus tard, me voilà en Nouvelle-France. Dans le tumulte de l'aérogare, je cherche une pancarte, un visage qui me confirme que Mitch a prévenu de mon arrivée. Je ne connais pas Bob Wears et je mise sur ma guitare en bandoulière pour la reconnaissance. Bingo! Une tape amicale sur l'épaule. Je me retourne sur un visage pétillant.
Bonjour, c'est Arnaud, le journaleux de la belle province. Je suis Richard, chargé culturel du Centre français de Lafayette. Mon char est parqué de vin. Je t'emporte au Centre. On va causer sur le road.
Waouh, c'est quoi cette embrouille? Où est l'ami Bob?
Bon, avec mes origines poitevines, ça devrait le faire. Pour le franglais, faudra que je m'adapte. Après un repos bienvenu et une bonne nuit de sommeil chez mon hôte, nous reprenons la route direction Baton Rouge, la Nouvelle-Orléans. Dans la vieille Chevrolet qui nous emporte, pépère, à 80 km/h à tout casser, la musique country résonne comme un leitmotiv. J'imagine alors un ricain en visite en France, à qui l'on ferait écouter les chansons de Mayol ou de Chevalier en boucle, et qui en déduirait que la chanson française se résume à cela. Pendant que j'écoute d'une oreille distraite Richard me conter 2 siècles de lutte cajun et de défense de la langue française sur leur territoire, j'observe tout du long, pensif, les paysages de Louisiane. Au travers des lectures de mon adolescence, je m'en étais fait une idée trop romantique sans doute. Les plantations, les champs de coton le long du Mississippi et la canne à sucre à perte de vue, des marais jusqu'à la mer. Ben, c'est raté. Les plantations sont toujours là, juchées sur le bord du fleuve avec leurs bâtiments flamboyants, architecture coloniale d'inspiration espagnole, anglaise et française. Mais au-delà du périmètre arboré et des parcs engazonnés, de gigantesques complexes pétroliers aux allures de cités lunaires sont les nouveaux symboles de la puissance du Sud. On se croirait dans un mauvais roman de science-fiction. Quelle déception!
Quelle horreur! Pourtant, les noms qui défilent devant mes yeux me replongent dans l'univers de Margaret Mitchell. Mississippi River Bridge, Shadowland, Ocalay, Natchez ou Delta Queen. Repères suffisamment visibles et précis d'un passé de légende.
Hé Arnaud, tu ne m'esgourdes pas? Je te demande si tu es déjà venu aux States.
Seulement à New York, Richard. Dis, c'est encore loin. Si ça continue, je vais faire une allergie à la musique cow-boy. T'as pas autre chose?
Ah, tu es aussi. Attends, je vais te poser une galette de Michel Doucet. Les haricots sont pas salés. Il reste 2 heures de road.
Va pour les haricots. J'espère qu'ils sont plus relevés que la sauce country. Me voilà bercé par 2 heures de Blue Bayou, country cajun, mélange subtil de quadrille poids de vin à la sauce irlandaise matinée de blues afro-américain. Pas vraiment étranger à mes oreilles. Les interprètes comme Zachary Richard ou encore Rufus Thibodeau ont franchi l'Atlantique grâce à Linda Ronstadt, Dolly Parton ou encore Neil Young, des artistes aussi curieux de culture que talentueux. Ma quête commence ici, et je ne me trouve désormais pas très éloigné de la frontière que je veux atteindre.
Dis-moi, Richard, comment as-tu rencontré Samuel?
Oh, c'est pas tordu, t'sais. Le centre de Lafayette, vous appelez ça l'écomusée, vous autres, avait besoin d'un canassin pour les démonstrations dans le corral du Ferran. Je lisais une annonce sur le local le jour où Bob Wears de Crossroad faisait son papier sur le Move Cajun. C'était une annonce de Samuel qui soldait un petit bail.
Qui quoi? $500 le petit canassin.
Ah, un poulain. Ouais, c'est cela. Bob Wears, qui n'en avait pas fini avec moi, m'a accompagné et c'est comme ça qu'on l'a connu, nous autres.
Je te dis rien de lui, je te laisse la surprise.
Je te remercie de ta discrétion, Richard, j'apprécie. La vieille Chevrolet quitte enfin la monotonie des grands espaces pour des chemins creux. Je me croirais dans l'ouest de la France si ce n'était cette odeur âcre. Une de ces odeurs qui vous stoppe d'un coup la respiration et vous laisse en apnée dans la crainte de l'inspiration nouvelle et pourtant vitale.
Mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur?
Ah, ça, c'est le maïgo et le patrol mélangé. On n'est plus très loin maintenant.
Le dernier endroit où je viendrai me retirer. Et puis au détour du chemin, j'aperçois au loin ce que je crois d'abord être une large butte, un contrefort. En fait, c'est une immense digue qui nous bouche l'horizon. Un jeune cheval plein de vie semble nous faire la fête en quelques cabrioles désordonnées et juste derrière, un double trait de rouille souligne le point bas du contrefort et trace une voie en direction d'un vieux wagon. La voie disparaît sous le wagon, terminus d'une ligne improbable, comme si la vie s'était arrêtée là, craignant de faire fausse route ou par peur d'aller plus loin.
Il est là, pareil à un garde-barrière maintenu en poste sur une voie désaffectée. Il se balance dans un rocking chair vermoulu posé sur un promontoire de bois construit à la va-vite devant ce qui lui sert de maison. Nous avançons vers lui. Je reste un peu en arrière de Richard. La guitare à la main, je me sens comme un jeune élève de conservatoire qui va prendre sa première leçon. Je ne connais rien de lui, mais tout en approchant, je sens son regard me transpercer et s'interroger sur mon compte. Que vient faire ce jeune blanc-bec avec sa guitare? Des yeux noirs qui lui mangent le visage, un air de sage sur une peau fripée par le soleil et les années. On dirait un vieux sachem métissé. J'apprendrai par la suite qu'il est né d'un père noir et d'une mère indienne de la tribu Natchez du sud de la Louisiane. La main qu'il me tend pour me saluer en dit long sur ce que le bonhomme a dû endurer dans sa vie. Le sourire que me renvoie Samuel
laisse augurer une suite favorable à notre rencontre.
Samuel te demande si tu peux jouer de la gratte.
Tout de suite, là, comme ça, il me prend de court. Je glisse mon bloc-notes dans la poche, j'accorde ma guitare et je pose simplement et sans conviction trois riffs de « One Scotch, One Bourbon, One Beer » de John Lee Hooker. Tandis que son pied droit commence à s'agiter de haut en bas, une plainte de gorge s'élève. Une de ces plaintes qui n'est pas sans rappeler les chants monodiques, les field hollers, que les esclaves entonnaient seuls dans les champs de coton, chants repris ensuite en chœur ou en canon par ceux qui trimaient plus loin dans les rangs. Il pose d'emblée les paroles sur mon rythme 4-4 et je comprends alors qu'il se passe quelque chose d'unique et d'intemporel. Sa voix est certes celle d'un vieillard, mais elle dévoile l'histoire de ce peuple noir qui a conservé cette plaie encore mal cicatrisée de son passé. Elle est toute la profondeur du Sud. Soudain, je ne me sens plus à la hauteur de l'événement. Mes mains se mettent à trembler. Samuel se retourne sans rien dire, attrape sa guitare et raccroche les 12 mesures pour me soutenir. Tous deux, dans l'improvisation, nous ne sommes pas tout à fait accordés. Je m'efface. Je suis tout petit face à ce bluesman d'exception. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Quel que soit le titre que j'ai joué, il l'aurait rattrapé au vol sans difficulté. Il pose son regard sur moi. Je comprends que mon épreuve initiatique est terminée et que ma quête peut commencer. Alors que Samuel entame la dernière mesure du standard, une sirène très puissante retentit derrière nous. Le fleuve Mississippi est là, juste en deçà de la butte. Ce fleuve mythique est toujours le lit de l'activité économique du pays. Il fait et défait les liens entre les hommes, emporte les bonnes et les mauvaises nouvelles, charrie le bois, le coton, mais aussi les larmes et le sang. Je suis né là, tout près, sur le bord du grand fleuve, à l'embouchure du delta, près de Bâton Rouge. Mes parents se sont rencontrés dans la plantation des O'Connelly. Drôle de destin pour ces deux-là, qui a priori n'étaient pas faits pour se rencontrer. L'histoire de l'Amérique en a décidé autrement. Son père, né d'une lignée de Maliens arrachés à leur terre d'Afrique il y a environ 2 siècles. Et sa mère, fille d'un Indien Natchez, tribu privée de ses terres depuis l'arrivée des colons. Ils ne sont pas maltraités chez les O'Connelly, une famille irlandaise issue des migrations de la Grande Famine qui a aussi connu l'humiliation. Quand le grand-père de Samuel fut affranchi, il ne voulut pas rester dans la plantation où il était esclave. Le lopin de terre attribué par l'Union était insuffisant pour faire vivre une famille. La bonne conscience de l'Amérique ne lui laissait guère le choix. Rester travailler dans les plantations ou voler. Les O'Connelly, il ne les connaissait pas. Tous les planteurs étaient pour lui des esclavagistes. Alors, celui-là ou un autre. Grand-pa et ma grand-mère sont employés dans la grande plantation des Irlandais, comme on les appelle. 200 nègres y travaillent dur pendant les périodes d'entretien et de récolte de l'or blanc. Madame remarque l'intérêt que ses enfants portent à ce couple de nègres. Ils les suivent continuellement. En fin de journée, grand-pa fait grincer son violon, les enfants dansent et tout le monde chante. C'est ainsi qu'ils devinrent employés de maison. Les planteurs savaient leurs enfants en sécurité auprès d'eux. Samuel reprend sa guitare et entonne un alléluia de circonstance. Les souvenirs remontent à chaque note pincée. Une larme perle doucement sous son œil droit et s'engouffre dans les profonds sillons de son visage.
« Tabernacle ! Tu vois, Arnaud, ça c'est le blues !»
Mon père a vu le jour un soir d'ouragan. Grand-pa n'a pas pu transporter ma grand-mère à l'abri chez le planteur. Oh, il a fait ce qu'il a pu, mais c'était trop dur pour lui avec le vent qui s'engouffrait dans sa cabane. Ma grand-mère n'a pas survécu. Mon père a passé son enfance à côté du sien, tout occupé à prendre soin des enfants de la propriété et du service. Grand-pa n'a pas vu grandir son fils. La mama qui avait pris le relais de ma grand-mère faisait le minimum pour lui, de peur de perdre son emploi. Le cœur de mon père s'est endurci. Il n'y a eu que le travail précoce dans la plantation pour lui faire oublier ce manque d'amour. Un automne, il ramassait les balles de coton dans les rangs. Un chant de femme attire son attention. Ce n'est pas un chant comme il en connaît, mais plutôt une plainte répétitive sur des « ha-ha » et des « yé-yé ».
« Té ! Ils sont tombés en amour, pardi !»
Et me voilà. C'est l'été 1921.
Bien vu, Richard.
Samuel reprend sa guitare. Il interprète une sorte de blues nègre indien, une alchimie invraisemblable. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. J'en ai le souffle coupé. La masse de travail diminue à la plantation. Les enfants quittent Bâton Rouge pour étudier à la Nouvelle-Orléans. Grandpa, vu son âge avancé, doit laisser son emploi de maison et retourner vivre dans sa cabane. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'occupe de moi. Livré à lui-même pendant l'absence de ses parents qui, de l'aube au crépuscule, cueillent, coupent, taillent, arrachent ou labourent sur la plantation, Samuel traîne son ennui. Il va de rang en rang surprendre les histoires, écouter les chants. En chemin, il croise les blancs qu'il apostrophe. « Tiens, là l'Indien !» Il ne comprend rien à tout cela. C'est son grand-père qui explique. Il a 12 ans. « Vous n'alliez pas à l'école, Samuel ?»«
T'es ben, François, toi, à l'école. Un nègre du Deep South. »«
Monsieur, l'école ici, pas fait pour les nègres et moins les rouges, » dit-il dans un créole afro-américain. Finalement, pour la traduction, Richard est bien l'homme de la situation. Son grand-père lui apprend la vie, les hommes, les femmes, la nature, le violon et Dieu. Sa condition de noir, il l'a déjà comprise depuis longtemps. C'est avec Le dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper qu'il apprend à lire et découvre ses racines indiennes. Une étrange émotion le traverse chaque fois que son grand-père lui lit ce livre, mais aussi les récits de la Bible le soir avant de s'endormir. Le temps s'est écoulé. C'est lui maintenant qui accompagne son grand-père en marche vers la sagesse et la sérénité.
Il sent vieux, fatigué. Moi qui n'a pas envie laisser seul Sam. À lui qui a confié peine, chagrin, solitude.
Richard, tu veux bien traduire, s'il te plaît? Je n'arrive plus à suivre lorsqu'il parle créole.
Je me souviens de cet instant où j'ai compris que tout avait un début et une fin. J'ai composé mon premier blues. J'ai bricolé ma première guitare avec une vieille boîte à cigares trouvée dans le grenier des O'Connelly et des boyaux de bœufs en guise de corde. J'ai joué cela à grands pas.
La guitare serrée contre lui, Samuel nous brise de nouveau le cœur en chantant les premiers vers écrits pour son grand-père adulé sur l'air de Old Man River. Qu'est-il arrivé ensuite, Samuel? Vous êtes resté auprès de lui?
Je ne peux pas. J'ai peur de mal faire. Mes parents ont fait prévenir les enfants O'Connelly de son état. Ils ont conservé de l'affection pour lui. Ils ont intercédé auprès de leurs parents pour le faire admettre en chambre à la plantation.
Mardi gras, et toi, que fais-tu?
La seule chose que Samuel sait faire, c'est chanter et s'accompagner à la guitare ou au violon. Il a bien essayé de ramasser le coton, mais la condition d'esclave de son grand-père lui revient sans cesse en mémoire à chaque geste de cueillette. Il lui a tant de fois conté ses souffrances. Toutes les fins de semaine, Samuel va animer des pique-niques, diverses fêtes autour des plantations, dont les espaces s'amenuisent de plus en plus, grignotés par les recherches pétrolières de l'État. C'était fatal, l'or noir allait remplacer incessamment l'or blanc. C'est en revenant d'animer un bal qu'il apprend la nouvelle. Grandpa est mort. Je suis incapable d'exprimer ma douleur, comme si un feu me dévorait de l'intérieur et qu'une pellicule de glace l'empêchait de franchir mon épiderme. Je reste figé dans cette souffrance, jusqu'à l'enterrement. Pour apaiser ce feu, Samuel noie ses 20 ans et son chagrin dans l'alcool. Je décide de quitter la Louisiane, de partir loin, tout abandonné, oublié. À l'époque, les usines Ford de Détroit embauchent en masse les ouvriers noirs. Pendant près de 20 ans, il introduit la ferraille dans la forge, la meurtrit, puis la pose encore rouge sous la formeuse, l'extirpe enfin lorsqu'elle ressemble à une aile de voiture. Le soir, il joue et chante le blues dans les bars louches et les honky tonks de la ville, noyant dans la bière sa condition d'ouvrier noir. Les macros, les dealers, les combinards et les tricheurs hantent ses nuits. Sa vie sentimentale est très tumultueuse. Les conflits sont nombreux. Samuel collectionne autant de bleus à l'âme que de coups de poing dans la gueule. Une querelle de trop fait chavirer sa vie. Jean pinçait pour Lucie, une jeune prostituée noire du quartier. Un soir, devant mes yeux, son mac blanc de peau, la roue de coups violents. Je me jette devant elle pour la protéger. Le mac brise une bouteille. Et du tesson, m'inflige un coup sec au visage. Je le repousse de toutes mes forces. Son corps s'affale sur une patère au fond du bar et le blesse mortellement. Pour la police, aucun doute. Samuel est coupable. La mort du blanc le conduit droit au bagne. Durant 10 ans, pieds et mains enchaînés, il va casser du caillou sur les routes et les voies de chemin de fer le long du Mississippi. Les enfants O'Connelly se sont reconvertis dans l'exploitation du pétrole. Ils recherchent Samuel pour lui apprendre le décès accidentel de ses parents sur une plateforme offshore du golfe du Mexique. Ils entreprennent alors d'user de leur influence pour faire instruire un procès en révision et le sortir de ce cauchemar en mémoire de grands pas. Un bon avocat lui évitera de passer 5 années de plus au bagne. Il est reconnu non coupable et l'État est condamné à réparer. Samuel est interdit de séjour à Détroit. En contrepartie du travail effectué, l'État lui verse un pécule et la compagnie des chemins de fer doit lui fournir un toit. C'est ici, à Bâton Rouge, dans ce wagon désaffecté où nous le rencontrons aujourd'hui, que Samuel a choisi de vivre désormais depuis 30 ans. Il élève quelques chevaux, mais il trappe surtout l'alligator dans les bayous avec les cajuns du cru, dépèce les animaux, tanne les peaux, vend les têtes aux touristes de passage et leur raconte des histoires de nègres et d'indiens, des sanglots dans la voix. Et ces sanglots, foi d'Arnaud, je vais tout faire pour les transcrire. Recontacter Bob Wears et m'assurer qu'une équipe de preneurs de son viendra sur place immortaliser les chants et les accords de ce bluesman rescapé de l'enfer.
Arnaud, as-tu becté une fois ou ces saloperies de bestioles?
Samuel nous invite avant de retracer le road. C'est autour d'un alligator bouilli dans une marmite d'herbe du bayou que se poursuit notre première rencontre.
Si vous avez en mémoire le goût du poulet et du poisson, imaginez le mélange, c'est à peu près cela.
Tout compte fait, même si ce n'est pas fameux, je suis heureux de ne pas avoir dû l'attraper. Si j'en juge par les cicatrices sur les bras de Samuel, ça ne doit pas être une partie de plaisir tous les jours. Il reprend sa guitare et nous chante une histoire de cajun et de trappe au gator dans le marigot. Une autre condition, un autre blues, en somme.